Et Olivier Beauregard est avec nous pour nous faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe du côté de la planète sport. Bonjour Olivier.
Salut.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va très bien. Là, on va commencer aujourd'hui en parlant de justement la composition de ce qui est l'équipe de Team Canada, mais junior.
Oui, absolument. Le championnat mondial junior qui arrive à grands pas, qui va être disputé dans les Maritimes cette année à Halifax et Moncton. Mm-hmm. On avait hâte de connaître, dans le fond, l'effectif qui allait faire partie de l'équipe. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de retours de l'an dernier. Tu sais, il y a des gars comme Zellweger. Puis je dis l'an dernier, là, on va être honnête, depuis le mois d'août, parce que le championnat mondial junior, exceptionnellement, a eu lieu au mois d'août, mm-hmm. En 2022. Alors, c'est ça. Il y a des gars comme Zellweger, comme je disais. Il y a les Québécois Joshua Roy, Nathan Gaucher également qui seront de retour. Mais un des retours qui était attendu et qu'on avait hâte de pouvoir confirmer, c'est celui de Shane Wright.
OK.
Veux pas, Shane Wright qui a été, vous l'avez tous vécu, là, le grand derby Shane Wright pendant le repêchage cette année à Montréal.
Oui.
Moi, j'étais sur place, je vais vous dire une chose, c'était... quand Shane Wright n'a pas été sélectionné par le Canadien en première ronde, c'était une chose, mais de ne pas être sélectionné en deuxième ronde et en troisième ronde, mm-hmm. C'en était une autre. Là, il y avait beaucoup de discussions à savoir c'est quoi le problème, pourquoi Shane Wright ne sort pas. Il y avait des caméras braquées sur lui, puis je peux te dire une chose, son visage était très, très long. Mm-hmm. Puis on connaît la suite, ça mène avec le Kraken de Seattle. Il connaît pas nécessairement le camp d'entraînement qu'il souhaitait connaître. Hein. Il a connu de bons moments, mais ça n'a pas été à tout casser.
Oui.
On l'aurait descendu dans la Ligue américaine, puis on se demandait même à un certain moment, est-ce qu'on le renvoie junior? Mais c'était pas... Ça n'a pas été dans cette direction-là, parce que dans la Ligue américaine, il a bien fait. Alors, de savoir qu'il va être avec l'équipe canadienne junior, qui a l'occasion de participer à ce grand tournoi-là encore, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle pour lui, parce que ça fait en sorte que si Shane Wright veut être dominant, si Shane Wright veut prouver qu'il appartient à la Ligue nationale, là, on s'entend, là, ce gars-là, sa confiance a été atteinte dans les derniers
oui.
mois, là.
Mm-hmm.
Je pense que c'est l'occasion parfaite pour lui d'aller regagner de la confiance. Pas compliqué, là. Il va être avec Connor Bedard, ils vont être les gars de tous les instants. C'est les gars sur qui j'ai l'impression que M. Williams va faire excessivement confiance. On va les envoyer sur la patinoire, on va les utiliser à toutes les sauces. Alors, je pense que c'est le scénario idéal. Je pense que Shane Wright doit être content de pouvoir aller disputer ce championnat-là parce que, tu sais, le Kraken de Seattle aurait pu décider de ne pas l'envoyer. Puis moi, je pense que ça n'aurait pas été bénéfique pour le joueur parce que, mm-hmm. visiblement, en ce moment, c'est pas comme s'il apportait quelque chose à l'équipe. Alors, c'est une bonne chose de le voir au championnat mondial junior.
Donc,
ça, c'est ma bonne nouvelle.
Super.
Mais il y a des déceptions par rapport à ça.
OK.
Écoute, seulement que trois Québécois avec l'équipe canadienne.
Oh, OK.
On parle de Nathan Gaucher, on parle de Tyson Hines, qui est un Gatinois d'ailleurs,
mm-hmm.
et on parle de Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke. Roy et Gaucher ont fait l'équipe l'an dernier, mais cette année, s'ajoute à ça Tyson Hines. Moi, ce que je suis pas un fervent, là. Moi, je pense que c'est les meilleurs joueurs qui doivent s'y retrouver, mais je pense qu'il y a beaucoup de talent. Un gars comme Jordan Dumais, qui joue avec les Moussettes d'Halifax, qui est probablement un des meilleurs marqueurs de la Ligue canadienne de hockey, aurait dû y figurer.
Mm-hmm.
Mais je veux revenir, puis la raison pour laquelle je vous en parle, c'est les propos de Zachary Bolduc des Remparts de Québec, qui a été retranché, lui, un peu plus tôt cette semaine par Équipe Canada.
Oui.
Il est allé très, très fort dans ses déclarations. Il a dit que les joueurs du Québec n'ont pas les mêmes chances que ceux des autres provinces avec Hockey Canada.
Oui, c'est ça. J'allais justement te lancer là-dessus. Je me souvenais plus du nom du joueur. Très content que tu le mentionnes, par contre.
Ouais, exact. Ben écoute, tu sais, c'est une grosse déclaration. Là.
Mm-hmm.
Quand tu t'en vas t'attaquer à Hockey Canada, que tu mentionnes que, un peu un côté racisme là, qu'on dénonce hein, mm-hmm. d'un certain côté. Alors il dit, j'ai été fier de mon camp, j'ai donné ce que j'avais à donner. La raison qu'ils m'ont donné quand ils m'ont coupé, ben dans le fond, c'est qu'ils voulaient aller dans une autre direction. Pour lui, puis pour beaucoup de gens, c'est un message vide, là, ça veut rien dire.
Bon, oui.
Pourquoi il n'a pas été préféré à un autre joueur? Il dit, tu sais, ils lui ont pas donné la chance de jouer en avantage numérique pendant les matchs hors concours, pendant le camp d'entraînement d'Hockey Canada. Ils lui ont pas donné beaucoup d'occasions de se faire valoir. Puis lui, il dit, si j'avais été un joueur de l'Ontario ou un joueur de l'Ouest, j'y aurais eu ces chances-là. Mmh. Écoute, je peux pas le contredire, là, parce que je suis pas sur place, parce que j'ai pas participé à ces camps-là.
Mm-hmm.
Une chose qui est sûre, c'est que ce sont de grosses énonciations de Zachary Bolduc. Il va falloir avoir un œil un peu plus ouvert vis-à-vis de ça, parce que si c'est vraiment le cas, c'est un problème. C'est un problème de mentalité, encore une fois, puis ça ne sera pas le premier problème de mentalité chez Hockey Canada, là, on s'entend. Mm-hmm. Alors, j'ai hâte de voir, en tout cas, qu'est-ce que ça va faire, mais chose certaine, Zachary Bolduc doit s'attendre à ne pas faire partie de la liste d'invitation d'Hockey Canada pour quelques années encore.
Ouais.
J'ai comme l'impression qu'il s'est un peu mis à dos, les dirigeants, mais si c'est le cas, il a bien fait de le dénoncer, puis chapeau à lui.
Somme toute, pour la formation, la composition de l'équipe junior du Canada, c'est quand même une bonne formation.
Oui, écoute, moi, je te cacherai pas que pour moi, c'est une des équipes qui, en tout cas, offensivement, qui sera la plus dynamique. Cette équipe-là va marquer beaucoup de buts. J'ai hâte de voir, par exemple, qu'est-ce qu'on va être capable de faire quand ça va être des matchs serrés, quand on va jouer sur la ligne, à quel point cette équipe-là va être capable, justement, de fermer le jeu, de jouer défensivement. Mais écoute, c'est une équipe remarquable. Je pense que c'est presque une meilleure équipe que l'an dernier.
Okay.
En tout cas, au mois d'août dernier. Alors, ça va être très intéressant. Puis, il y a une médaille d'or à aller chercher, une médaille d'or à défendre. Alors, ça va être très intéressant.
Excellent. On reste au hockey. Cette fois-ci, on s'en va dans la LNH. C'est pas mal le sujet de discussion dans la planète hockey de la dernière semaine. Alexander Ovechkin surpasse, il bat encore des records, mais là, il s'attaque, sa cible, c'est quand même Wayne Gretzky.
Absolument, mais Ovechkin a marqué cette semaine son 800e but dans la Ligue nationale, et le record appartient à Wayne Gretzky, mais le record est de 894 buts. Là, vous me dites, OK, il y a encore 94 buts à marquer, mais au rythme d'Alex Ovechkin, c'est pas beaucoup, là. C'est un gars qui marque en moyenne entre 40 et 50 buts par saison.
Ça.
Il ralentit pas. Je te dis pas qu'il est jeune, là. Mais il ralentit pas. Et je crois que personne pensait vraiment que ce record-là était atteignable. Là. Je pense qu'Alex Ovechkin va pouvoir aller le chercher parce que, écoute, ça fera en sorte là, qu'Ovechkin devrait jouer 2 à 3 saisons supplémentaires. Moi, je pense qu'il est capable de le faire. Là. Et vers l'âge de 39 ans, il serait peut-être en mesure d'aller chercher ou battre le record. Et la façon dont ce gars-là joue, la façon dont, quand on lui parle du record, il réagit, j'ai comme l'impression que c'est comme un mandat qu'il se fait. Mais tout ça pour dire que c'est tout à fait phénoménal ce qu'il est en train de faire, ce gars-là. Écoute, c'est une autre époque, là, l'époque de Wayne Gretzky.
Oui.
C'était pas le même style de hockey. Il y avait une moins grande parité, selon moi, à travers la Ligue. Le jeu était beaucoup moins rapide, beaucoup moins exécuté. Et aujourd'hui, de pouvoir avoir des occasions, puis non seulement d'avoir des occasions de marquer, mais d'enfiler l'aiguille à un rythme aussi régulier que ça, là, ça sort du talent. Là. C'est phénoménal. C'est un don de soi. C'est un don qu'on a. Non, je pense qu'Alex Ovechkin est en bonne position. Il y en a qui pensent qu'il ne sera pas capable de l'atteindre parce qu'il reste encore trop de buts à aller chercher. Mais pour moi, de voir le rythme et la vitesse à laquelle ce gars-là continue de performer, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir l'arrêter. Alors, je vois pas une retraite anticipée dans son cas. Je vois plutôt des records qui sont à sa portée. Puis ça, j'ai bien hâte de voir s'il va être capable d'aller chercher ça.
Mais ça, parce que le mot « retraite », on dirait qu'il ne l'a pas encore prononcé lui non plus de son côté. Là. Il pense même pas, là, on dirait. Là.
Et c'est comme dans le cas de Sidney Crosby. T'sais, ce sont deux joueurs d'exception. Puis c'est deux gars que tu n'entends pas le mot « retraite », malgré le fait qu'ils sont rendus à 35. Bientôt 36. Je pense, dans le cas d'Ovechkin, c'est 36 ans. Tu sais, les gars ne rajeunissent pas. Il y a beaucoup de carrières qui se terminent bien avant ça dans la Ligue nationale.
Mm-hmm.
Mais ces gars-là sont encore au sommet de leur art à cet âge-là. Alors, moi, pour moi, il n'y a aucun signe qui montre que ces gars-là doivent prendre leur retraite. Ils vont être convoités, peu importe ce qui va se passer, encore pour au moins les 3-4 prochaines saisons.
Donc, c'est vraiment à suivre pour les prochaines saisons si le record de Wayne Gretzky sera battu par Ovechkin.
Je vais mettre mon petit 2, moi.
OK. Et on termine en parlant de tennis. On parlait justement de talent. Deux quand même talentueux qu'on a entendu beaucoup parler au courant de la dernière année. C'est Leilani Fernandez et Félix Auger-Aliassime qui ont eu quand même un beau mérite au courant de la journée.
Oui, absolument. Ils ont été choisis aujourd'hui, là, joueurs et joueuses de l'année par Tennis Canada. Donc, ils ont chacun remporté le prix d'athlète par excellence en simple. Ça va de soi, là, Auger-Aliassime a été le meilleur de sa profession au Canada, ça c'est sûr et certain. Il a connu une saison fantastique, plus particulièrement cet automne. Là, j'en avais parlé justement là, sur nos ondes, à quel point il m'avait impressionné avec plusieurs finales de l'ATP. Écoute, des semaines et des semaines. Il a soulevé le trophée dans 3 compétitions consécutives. Il a été champion à Florence, à Anvers, à Bell. Il a aidé son équipe à remporter la Coupe Davis, une première pour l'équipe canadienne. Tu sais, ça a été toute une saison pour Félix Auger-Aliassime. Pour moi, il n'y avait aucune compétition dans son cas. Et puis, c'est un peu la même chose pour Léla Annie Fernandez, elle. Elle a récolté les 2 prix, soit dit en passant, d'excellence. Là, on parle pour... Puis c'est la 3e fois dans sa carrière déjà, puis elle n'est pas vieille, là, qu'elle remporte ça. Mais elle a été incroyable. Elle a défendu son titre à Monterrey. Elle s'est rendue en quart de finale en Roland-Garros. Écoute, pour moi, c'est une joueuse toute étoile. Léla Annie Fernandez, c'est notre nouvelle Eugénie Bouchard. C'est notre nouvelle... Tu sais, c'est vraiment le visage féminin du tennis canadien en ce moment. Rappelez-vous, à la Roland-Garros, elle avait quand même disposé de la 12e puis de la 23e raquette mondiale. Ça n'avait pas été petit, là, ce qu'elle avait accompli. Moi, j'ai comme l'impression que le meilleur est à venir pour elle. Elle est vraiment, en ce moment, au sommet de son art. Puis j'ai l'impression que ce n'est que le début. Dans le cas de Félix Auger-Aliassime, qui est un peu plus vieux, moi, j'ai aimé ce qu'on a vu cette année. Et on le sait, le tennis, c'est un sport où tu peux éclore un peu plus tard. Moi, je pense que dans son cas, on est en train d'atteindre un sommet, là. Et si ce sommet-là, qu'on pense qu'il peut atteindre, va arriver, Félix Auger-Aliassime va être le meilleur Canadien depuis très, très, très longtemps à pratiquer le tennis. Alors, moi, je suis vraiment content, voilà, de cette nomination-là pour ces 2 athlètes-là. Puis c'est un peu un bombe pour Félix Auger-Aliassime parce que, rappelez-vous, il y a beaucoup de gens qui critiquaient le fait que ce soit Marie-Philippe Poulin qui a remporté le titre d'athlète de l'année par excellence au Canada la semaine dernière et pas Félix Auger-Aliassime. Ben moi, je pense que c'est un peu un bombe. Puis on dit à Félix Auger-Aliassime, écoute, c'est reconnu ce que tu as réalisé. Bravo, quelle année! Continue parce que nous, on continue à croire en toi et on continue à soulever tes exploits. Alors, félicitations aux 2 athlètes. Moi, je pense que le tennis canadien est en santé.
Excellent. Je crois que ça fait le tour pour la chronique. Peut-être un petit mot pour ce soir. Bon, le CH, défaite hier, ce soir, fait face aux Ducks. Est-ce qu'on peut s'attendre au même résultat ou quand même un peu plus positif?
Je pense que le Canadien, hier, s'est réveillé un peu trop tard. Là. Soyons honnêtes, ça n'a pas été un grand match. Puis bon, il y en a qui ont critiqué l'arbitrage. Moi, j'irai pas là. Je te dirais que le Canadien doit jouer 60 minutes. Puis c'est un peu la même chose. Avec ce qui va se passer ce soir. Là. Moi, pour moi, les Ducks d'Anaheim, c'est probablement une des pires équipes de la ligue. Tu sais, je pense pas me tromper. Là. C'est une des pires formations depuis le début de la saison. C'est une des formations les plus décevantes. C'est une équipe qui est à leur portée. En plus, tu joues à domicile. Il y en a qui vont me dire, ben oui, mais on a joué la veille. Hey, on a joué à Ottawa. Quand je travaillais pour le Canadien, je peux vous dire une chose, il n'y a rien de plus facile que de prendre le train le soir. T'es chez vous, t'es couché à la même heure que d'habitude. C'est pas ben plus tard. Donc, ça, c'est pas une excuse pour moi. Le Canadien, ce soir, va devoir justement peut-être lancer un message en disant, hier, c'est une erreur de parcours, plutôt un accident de parcours. Mais, tu sais, tu perds 3-2. Le résultat global d'hier semble pas si pire. Mais je te le dis, ceux qui ont regardé le match hier, je pense que vous êtes d'accord pour dire que le Canadien a joué peut-être une bonne deuxième moitié de match. Mais ce soir, contre cette équipe-là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ça va pas bien pour Gibson. Ça va pas bien pour pas mal tout le monde avec cette petite Zegras dans cette équipe-là. Moi, j'irai chercher rapidement les devants. Puis j'irai remporter ce match-là de manière convaincante pour prouver que, écoute, accident de parcours. Partons en pause de Noël là, dans les prochains jours là, de la bonne façon, puis partons avec une conscience tranquille. Parce qu'il n'y a rien de pire que partir en vacances quand tu es sur une série de défaites. Il n'y a rien de pire que partir en vacances quand tu perds contre la pire équipe de la Ligue.
Ouais. Bon, ben c'est à suivre. On va espérer une victoire pour
bon
ce soir. Oui, merci. Hey, merci beaucoup, Olivier.
Un grand plaisir, merci.